après ce temps d'absence. Heureux de louer le Seigneur ensemble et de partager aussi l'enseignement de sa parole. Si j'étais un animateur d'un jeu des 1000 euros chrétiens, j'ai trouvé une question difficile. Dans les livres de la Bible, quel serait celui qui pourrait le plus facilement être appelé un commentaire particulier de notre très républicaine devise, liberté, égalité, fraternité? Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Alors rassurez-vous, je ne vais pas vous faire mariner longtemps. C'est, à mon avis, mais vous en jugerez à la fin de ce que j'aurai partagé avec vous, la lettre de Paul à Philémon. Un commentaire particulier sur liberté, égalité et fraternité. Alors je vous lis la lettre en question. Lettre de l'apôtre Paul à Philémon. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archip, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans sa maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis. Moi, Paul, un vieillard, et de plus, maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il vous est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Moi, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'as ainsi, ou que tu m'aurais plutôt, ainsi accordé, ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours ? Non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi tu as une dette à mon égard, c'est ta propre vie. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre. J'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Épaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Une lettre de Paul, non pas à une église, mais à un ami. Il y a dans la dernière série des lettres de Paul, en effet, plusieurs lettres personnelles. Elles sont adressées prioritairement à des responsables d'église, à Timothée, à Tite. Ici, c'est quelque chose d'encore plus personnel qui est abordé. C'est une affaire personnelle qui est traitée par l'apôtre Paul entre lui et Philémon. Une affaire privée, mais elle est traitée, cette affaire privée, avec le même cœur, le même souci de fidélité que les questions doctrinales ou pratiques de l'Église. D'ailleurs, vous avez certainement reconnu dans les tout premiers versets une salutation, une ouverture de lettres qui ressemble beaucoup aux lettres que Paul adresse aux Églises. Le destinataire de cette lettre, c'est d'abord Philémon, mais il n'est pas tout seul, mais prioritairement Philémon. Philémon est un membre important de la communauté de Colosse, de l'église de Colosse. Il fait bénéficier cette église de ses biens et de son influence. C'est un converti de Paul. L'apôtre le lui rappelle. Il le tient en grande estime au point de l'appeler son bien-aimé collaborateur. Ainsi donc, cet homme, qui n'était pas spécialement un pasteur, si l'on peut dire, ou un berger, ou quelqu'un qui conduisait l'église, est quand même quelqu'un par qui vit en grande partie l'église de Colosse, qui reçoit beaucoup de cet homme remarquable. Et l'apôtre Paul l'appelle son bien-aimé collaborateur. Mais l'adresse est plus large que simplement à Philémon. La lettre, elle est adressée à Philémon, à Appia, on pense que c'est probablement son épouse, Archippe, on pense que c'est probablement son fils, et l'Église qui se réunit dans sa maison. Les circonstances de la lettre. La personne d'Onésime est présentée. C'est un esclave de Philémon qui s'est enfui de chez son maître, peut-être à la suite de quelques larcins. Ayant rencontré l'apôtre Paul, il s'est attaché à lui et il s'est converti à Jésus-Christ. Paul s'est de son côté attaché à Onésime et il en a fait son collaborateur. Il le garde un temps près de lui, mais en se prolongeant, cette situation risque de devenir délicate. Pourquoi ? Philémon peut prendre ombrage du sans-gêne de Paul, qui, sans avoir obtenu son consentement, ni même l'avoir prévenu, a pris à son service l'esclave fugitif. En outre, selon le droit en vigueur, Paul, en gardant près de lui un fugitif, se fait complice d'une grave infraction de droit privé. Enfin, Onésime lui-même risque d'être poursuivi et mis en prison avant d'être ramené de force à son maître qui peut lui infliger un lourd châtiment. Pause. Quel est le rapport entre cette histoire lointaine et notre quotidien ? on va voir. Mais je pose une autre question. Pourquoi respecter des lois sur la condition de l'esclave et les droits de son maître, alors que ce sont des lois manifestement injustes au regard des droits humains? Réponse partielle. Parce que ces lois régissent la société de l'époque, que cette société est bâtie sur ces lois, et que celles-ci s'appliqueraient à toute personne qui, individuellement et délibérément, prétendrait s'en affranchir au seul critère de sa propre idée de la justice, selon évidemment les références de l'époque. Nous reviendrons bien sûr un peu plus loin sur ce sujet. Paul renvoie donc Onésime à son maître. Et il adresse en même temps à Philémon cette lettre dans laquelle il le prie d'accueillir son esclave non seulement comme un frère bien-aimé, mais plus encore comme si c'était Paul lui-même. Il ne lui demande pas en termes express l'affranchissement d'Onésime, mais il ne doute pas que Philémon fera plus encore qu'il ne lui est demandé. À Philémon de comprendre ce que comporte ce plus. Nous sommes ici en présence de quelque chose de profond au niveau des relations humaines et de profond au niveau de la foi. Et on peut mettre en contraste cette demande de Paul dans le fond et dans la forme par rapport à une prescription légaliste de conduite qui lui serait simplement dictée. Ici, c'est un plaidoyer pour le libre choix, le choix responsable. En tout cas, Paul laisse entendre avec toute la clarté désirable qu'il compte bien qu'Onésime, affranchi ou non, soit renvoyé auprès de lui pour le service de l'Évangile. Revenons plus près du texte de la lettre. D'abord, ces salutations qui disent aussi la force des liens entre les personnes et leur qualité. Paul, quelle est sa situation? Prisonnier de Jésus-Christ. Et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur. Qualité des personnes, qualité des relations, situation aussi de ces personnes. Il salue Appia, il salue Archip, compagnon d'armes et l'Église qui se rassemble dans sa maison. Des liens forts établis par la foi en Jésus-Christ et par le fait d'être ensemble enfants de Dieu et chacun enfant de Dieu. À l'Église qui se réunit dans la maison de Philémon, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix, comme à la plupart des autres églises auxquelles l'apôtre s'adresse. La joie et la reconnaissance de l'apôtre Paul sur tout ce qu'il sait de Philémon, de sa nature, de son action, de son témoignage et de tout ce qu'il apporte à l'Église. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. C'est quelque chose qui est reconnu par tous, cette qualité de vie et de témoignage de Philémon, ce bienfait de sa présence et de son action dans l'Église. L'amour et la foi de Philémon envers Dieu et en faveur de tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Quelle reconnaissance que celle de Paul et quelle prière en faveur de Philémon. Et il dit à la fin de cette joie reconnaissante, il redit: « J'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. » Quand on reçoit une parole de cette nature, on peut être soi-même très encouragé. Et quelle belle parole à mettre sur nos cœurs pour essayer d'aller dans ce sens afin qu'on puisse dire du mieux possible. J'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est très simple, mais c'est très beau. Et je prie le Seigneur qu'il m'aide et je prie le Seigneur qu'il nous aide à être un peu comme Philémon. Des personnes dont on puisse dire « Tu es pour moi une source d'encouragement ». Il y en a d'autres dans l'Écriture qui sont ainsi qualifiés. Mais voilà, nous sommes en présence de Philémon. J'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Maintenant, la requête, la demande. Paul commence par dire que la requête qu'il adresse à Philémon, il aurait toute liberté de la lui adresser sous forme d'une prescription par motif d'autorité. Malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire ton devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour. Paul est libre de dire cela à Philémon. Il préfère, bien sûr, un motif supérieur, adresser la demande au nom de l'amour. On voit aussi que toute cette lettre est tissée dans l'amour. Les liens qui se sont établis entre Paul et Onésime sont devenus très forts. Il a eu la joie de le voir se donner au Seigneur et la joie de le voir entrer même dans une collaboration avec lui. Et il a été une grande aide, Onésime, pour Paul. Et Paul le dit de façon très, très sensible à Philémon. Et puis, à un moment donné, il fait un jeu de mots sur le nom d'Onésime. Il lui était offert sur un plateau, ce jeu de mots, puisqu'Onésime signifie « utile ». Donc, il commence par lui dire, il s'appelait utile, mais il ne s'est pas très bien comporté, donc il est devenu inutile. Mais maintenant qu'il s'est converti, il est doublement utile à toi et à moi. Alors tu vas le retrouver comme doublement utile. Son nom et son comportement. Onésime. Alors Paul fait bien attention de dire à Philémon, voilà, je t'expose tout ça, je te le dis de tout cœur, mais je te le dis de façon à ce que tu puisses librement décider de ce que tu dois faire avec Onésime. Et que le bienfait que je te demande soit libre et volontaire. Alors ici, je ne sais pas si vous auriez réagi comme ça, mais peut-être que là, j'ai l'esprit un peu mal tourné, vous en jugerez. Je me dis, un bienfait libre et volontaire, après tout ce qu'il lui a dit, il lui a fait quand même, excusez-moi de dire comme ça, une sacrée pression affective et spirituelle. Et quand vous mettez tout ça ensemble, comment résister à la pression de Paul? Tant pis, j'ai osé poser la question. Alors, je n'ai pas beaucoup de réponses, sauf que Paul a eu la liberté de s'exprimer ainsi. Et qu'en ayant la liberté de s'exprimer ainsi, il continue à dire que le bienfait sera librement accordé et volontaire. Voilà. C'est un des exemples où, parfois, nos logiques, nos raisonnements, ils n'expriment pas la totalité d'une situation et de quelque chose. Moi, je constate ici que Paul, avec tout son cœur et toute sa logique de chrétien, d'apôtre et d'ami, lui fait le grand jeu de l'ensemble, mais qui lui dit je veux que ton bienfait soit librement accordé. Et on ne peut pas douter que s'il le dit, et si Philémon va dans le sens de ce que dit Paul, ce sera un bienfait librement accordé. À nous d'en tirer la leçon que nos logiques, nos raisonnements, ne saisissent pas l'ensemble de quelque chose qui nous est ici présenté. Notre façon de voir, notre façon d'évaluer est différente de ce qui est ici exprimé, de l'époque peut-être, des personnes. Constatons simplement ici cette liberté de Paul de s'exprimer ainsi et le fait qu'il formule une requête avec beaucoup de conviction et d'arguments et qu'au bout, il parle d'un bienfait volontaire librement accordé. C'est que, évidemment, nous avons ici des relations très, très fortes sur le plan humain et chrétien, entre Onésime et Philémon, entre Onésime et Paul, entre Paul et Philémon. Je voudrais quand même, pendant quelques instants, pas être trop long, aborder d'une façon un peu plus directe la question de l'esclavage dans le contexte social de l'époque. Juste très brièvement, un rappel historique. L'esclavage dans l'Ancien Testament. L'esclavage était pratiqué en Israël comme dans tout le monde ancien. Cependant, l'esclavage n'a jamais atteint en Israël l'ampleur ni la forme qu'il a connue dans l'Antiquité classique. Israël, en effet, reste marqué par sa double expérience initiale, sa détresse dans l'oppression subie au pays de la servitude et la merveilleuse histoire de sa libération par Dieu. Il est utile d'observer que dans la Bible, le même mot désigne à la fois le serviteur et l'esclave. Certes, la loi accepte l'esclavage comme un usage établi, mais elle a toujours tendu à en atténuer la rigueur. Bien que le maître soit propriétaire de son esclave, il n'a pas pour autant le droit de le maltraiter à sa guise. S'il s'agit d'un esclave hébreu, le Code de l'Alliance ordonne l'affranchissement tous les 7 ans. Plus tard, le Deutéronome y ajoute même des attentions fraternelles. Et ici, je pourrais juste vous lire quelques versets au chapitre 15 du Deutéronome. Voilà ce que nous y lisons. Si un de tes compatriotes, hébreu, homme ou femme, se vend à toi comme esclave, il sera à ton service pendant 6 ans. La 7e année, tu lui rendras la liberté. Mais le jour de sa libération, tu ne le laisseras pas partir les mains vides. Tu lui donneras en présent une part de ce que l'Éternel t'aura accordé comme bénédiction, du petit bétail, du blé et du vin. Souvenez-vous que vous avez vous-même été esclave en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous a délivré de cet esclavage. La législation à laquelle se réfère notre texte, ou plutôt d'abord la législation lévitique, va instituer l'affranchissement général de tous les esclaves lors de l'année du jubilé. Finalement, la loi veut faire passer l'esclave hébreu au statut de salarié, car les enfants d'Israël, rachetés par Dieu de l'esclavage de l'Égypte, ne peuvent plus être esclaves d'un homme. Dans le Nouveau Testament, le problème de l'esclavage s'est posé à nouveau dans les communautés chrétiennes du monde gréco-romain. Nous en avons ici un exemple. Paul a rencontré ce problème notamment à Corinthe. Dans tout l'Empire romain, il y avait une proportion énorme d'esclaves parmi la population. On estime qu'à Corinthe, du temps de Paul, il y en avait 400 000. Mais il faut savoir que la condition des pauvres, libres, et même parfois des esclaves affranchis, était parfois pire que celle des esclaves. Le travail était accompli par les esclaves, les autres n'en trouvaient que difficilement. Dans l'Écriture, donc, il n'y a pas de contestation frontale, radicale, explicite de l'institution de l'esclavage comme telle, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Mais une transformation plus radicale est prônée de l'intérieur. Ainsi, cette réalité est prise en compte par le Nouveau Testament, et nous avons des textes qui en parlent, vous connaissez certainement ces textes, lorsque Paul s'adresse aux esclaves et il leur dit de bien faire leur travail et d'accomplir leurs tâches, non seulement quand les maîtres sont présents, mais quand ils sont absents, non seulement par devoir, mais parce que, en tant que chrétiens, ils doivent bien faire ce qu'ils ont à faire et qu'ils aient comme motif d'accomplir leurs tâches, pas seulement de le faire quand le maître surveille, mais même quand il n'est pas là, parce que vous le faites comme pour le Seigneur. Il dit cela, l'apôtre Paul, comme pour le Seigneur. Paul assure que dans le Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre. Aux chrétiens de Rome, maîtres et esclaves, il peut même écrire que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection. Devant Dieu, dans le Christ, à l'intérieur du groupe fraternel et spécialement dans le cadre des assemblées ecclésiales et des assemblées liturgiques, tous les croyants sont égaux et frères. Sur le plan extérieur et juridique, celui de la vie civile, le devant les hommes, distingué du devant Dieu, il faut prendre en compte la réalité sociale, s'y inscrire sans la nier, mais la transformer de l'intérieur. Si Paul, en effet, ne prétend nulle part qu'il faille abolir directement le statut de l'esclavage, alors si répandu, on ne saurait lui faire dire que l'esclave doit rester esclave, demeurer à la place qu'il se trouve avoir dans la société, comme si cette place lui avait été assigné d'en haut une fois pour toutes. Il y a un texte dans 1 Corinthiens 7 qui dit que chacun demeure dans l'état, dans la situation où il était lorsqu'il a été appelé. As-tu été appelé esclave? Ne te préoccupe pas d'abord de changer ta situation, mais sois sensible à l'appel du Christ qui vise à t'appeler à changer ta vie. Maintenant, si tu peux devenir libre, profites-en. Alors, ici, il y a un problème d'interprétation. Si vous avez une Bible avec des notes, vous verrez que certains comprennent cette expression qui est ainsi, je veux dire limitée. Si tu peux devenir libre, profite. Alors, il y en a qui disent, profite de devenir libre, bien entendu. La situation d'être libre est préférable, de toute évidence, à celle d'être esclave, dans son principe. Mais d'autres comprennent, profite plutôt de rendre témoignage dans la sphère des esclaves, puisque tu as là aussi un témoignage à apporter en tant que chrétien. Alors, si on prend les choses autrement, on dira simplement que l'apôtre ne prône pas ici de maintenir tous les statu quo et toutes les situations établies, mais il est en train d'expliquer qu'il ne faut pas attendre le salut d'un changement de statut ou d'un changement de situation. Ce n'est pas de là que vient le salut vient de l'appel de Dieu et du changement intérieur. La fraternité, l'unité en Christ s'empare de la relation maître-esclave, la brise et l'accomplit sur un tout autre terrain. Pour Paul, ce qui importe désormais, ce n'est pas telle ou telle condition sociale, c'est l'appel de Dieu. L'esclave fera donc son devoir de chrétien en servant son maître comme le Christ. Le maître chrétien, lui, comprendra que l'esclave est son frère dans le Christ, il le traitera fraternellement. Dans l'homme nouveau, la vieille opposition esclave-homme libre n'existe plus. Ce qui importe seul, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui importe, c'est d'être une nouvelle créature. On peut dire en résumé que si le Nouveau Testament n'est pas révolutionnaire au sens moderne, il est encore moins conservateur. Tout ordre moral est en fait déboulonné comme système fermé et passe avec la structure de ce monde pour être remplacé par la vie de la foi agissante par l'amour. Redisons ici, et j'arrive à ma conclusion, que la situation ou la position sociale d'une personne n'est ni première ni déterminante pour définir cette personne. Et que les notions si importantes de liberté et d'égalité, premières aux yeux des humains, sont secondes aux yeux de la foi en Christ. La première, c'est au sens le plus plein du terme, la fraternité. La fraternité. On pourrait repartir pour une nouvelle méditation, ou plusieurs, sur le sujet. Nous y reviendrons certainement. Mais je voudrais juste ici souligner la densité de ce mot qui est très commun, qui est très fréquent. On s'appelle entre nous frères et sœurs, et c'est très bien comme ça. Mais revenons simplement à l'origine, le sens premier. Le sens premier, c'est lien fort de nature, quand on a un frère ou une sœur, quand on est frère ou sœur dans la voie de la nature. Il y a au départ des liens forts. Maintenant, nous savons très bien qu'à partir de là, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et malheureusement, dès le départ dans la création, nous voyons que le problème a surgi entre les deux premiers frères, Caïn et Abel, et on sait comment ça s'est terminé. Alors, sans basculer du tout au rien, nous savons très bien toutes les situations possibles et imaginables, et nous savons tout ce que dit l'Écriture qui prend en compte à la fois la beauté de cette relation initiale et aussi tous les problèmes qui peuvent surgir. Et j'ai trouvé, bien sûr, cette citation des Proverbes que j'ai trouvée assez extraordinaire dans notre contexte. Proverbe 18:4. Il est tel ami plus attaché qu'un frère. C'est vrai. Du cœur, dans l'action, dans la vraie relation, il est tel ami plus attaché qu'un frère. Alors, ce qui m'a étonné, c'est le début. Moi, je connaissais surtout la fin, mais je ne savais pas comment ça commençait, ce proverbe. Vous savez comment il commence, ce proverbe ? Ça, je le dis pour les jeunes. Hein. Il commence ainsi. « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. » Facebook, Twitter et compagnie. Pardon. Non, retenons l'autre partie. La fraternité. Lorsque ce mot est repris dans le contexte de la nouvelle naissance, de la communauté de l'Église, de la communion fraternelle, il reprend et il développe un sens profond que nous voulons continuer, chacun pour nous, avec la parole de Dieu, à creuser et à approfondir, parce que c'est un sens extrêmement fort. Frère, c'est ce que dit Paul à Philémon. Tu vas retrouver Onésime comme un frère. Et Philémon aura à décider ce qu'il fera, soit le garder pour lui, avoir une relation fraternelle avec Onésime, soit le renvoyer vers Paul, qui semble lui demander, mais qu'il lui accordera comme un bienfait pour que, justement, Onésime remplace Philémon et ceux qui l'aidaient dans sa situation de prisonnier. Voilà une belle lettre, une bien belle lettre. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur par l'amour du Christ. Il l'a déjà beaucoup réconforté et il lui demande encore ce réconfort de lui adresser Onésime. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne te demande. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa grâce. Que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde sa grâce. Amen. Pour nous préparer au partage